Mesdames et messieurs, bonjour. Brigitte Roussel me faisait remarquer à l'instant que nous sommes un an, presque jour pour jour, ou même jour pour jour, après le début d'Evento 2009 et un an avant le lancement d'Evento 2011. Je voudrais d'abord remercier Denis Mola de nous accueillir ici pour la signature de cet ouvrage et saluer une fois encore le dynamisme de notre grande librairie bordelaise qui fait chaque jour la démonstration de sa capacité d'adaptation à un environnement culturel et notamment un environnement de lecture qui ne cesse d'évoluer. Et je voudrais aussi me réjouir de retrouver Didier Faustino qui nous a fait vivre l'an dernier de très beaux moments et qui a dirigé la publication de l'ouvrage dont il va nous parler maintenant. Je suis là simplement pour l'accueillir et c'est lui qui va présenter à la fois son œuvre et répondre à vos questions. Je voudrais simplement redire combien pour moi ce coup d'essai qu'a été Evento 2009 a été encourageant. La manifestation a été de grande qualité, son rayonnement national et international a été fort. Les Bordelais ont vécu quelques moments très intenses. Je pense bien sûr à tout ce qui s'est passé sur la passerelle Kawamata, qu'on a eu beaucoup de mal à démonter. Et je vois en ce moment beaucoup de Bordelais se promener avec des petits cubes extraits de la passerelle de Kawamata, encore hier, au moment de l'inauguration de la maison éco-citoyenne. On ne peut pas oublier non plus les moments vécus dans la base sous-marine avec l'installation d'Amos Gitai, ou bien ce qui s'est passé au Grand Théâtre, la venue de nos amis de Luanda et beaucoup d'autres moments très forts. Et je suis heureux de voir que tout ceci restera gravé, sinon dans le marbre, du moins dans le papier, grâce à l'ouvrage qui a été rédigé et qui vous est présenté aujourd'hui. Et puis nous avions tous dit que ce qui importait, c'était de continuer. Nous allons donc continuer avec Michelangelo Pistoletto. La première chose qu'il a faite, en accord avec nous, c'est de prendre contact avec Didier Faustino pour s'imprégner de ce qui avait été fait et préparer donc la prochaine édition. Je pense qu'elle est extrêmement prometteuse et nous permettra de franchir une nouvelle étape. En tout cas, merci encore, cher ami, de vous être investi avec autant de passion dans cette aventure. Je sais que ça n'a pas toujours été un chemin de rose, il y a eu des moments d'enthousiasme, des moments un petit peu de découragement, mais l'enthousiasme a prévalu. Je remercie aussi ce secondi de vous avoir accompagné dans tout cela, et vous dire donc merci et bonne chance. Je vais m'asseoir à côté de Denis Mola, s'il veut bien m'accorder l'hospitalité.
Tu veux commencer ou je veux commencer?
Je remercie juste Monsieur Juppé, Monsieur Mola, merci de nous accueillir pour ce lancement, cette signature. Je vais juste expliquer un peu de quoi il s'agit en tant qu'ouvrage. Nous avions une série de matériel qui avait été pris comme ça sur le fait pendant une dizaine de jours, les 10 jours d'Evento, et l'idée nous est venu, finalement, on savait qu'on allait faire quelque chose, qu'on allait faire un ouvrage, un livre, par la suite, et l'idée nous est venue, finalement, de travailler sur un objet, quelque part, qui est lié, dans sa forme, à l'idée initiale, qui était cette idée d'intime collectif, et peut-être plus sur un objet intime, donc un objet un peu souple, un peu léger dans sa facture, dans sa tactilité. On a travaillé avec Pierre-François là-dessus, Pierre-François Le Thuet, le graphiste, et l'éditeur Christophe Legac, sur l'idée d'un livre qui soit une espèce de, je dirais, de petit cahier intime. Certains parlent de journal intime, moi je préfère dire le petit cahier intime, j'avais pas de journal intime, j'avais plutôt des carnets ou des cahiers, donc c'est un petit côté, on voulait que ce soit à la fois livre et cahier, et du coup on a détaché un peu cette espèce de jour après jour à travers des images, sans donner trop d'importance aux œuvres, mais plutôt donner de l'importance à une ambiance, à une ville. C'était un peu le principe de départ d'Evento. C'est d'abord Bordeaux, c'est d'abord les publics de Bordeaux, c'est d'abord le citoyen bordelais qui doit se reconnaître dans le livre. Et voilà, on a voulu faire quelque chose de cet ordre-là. Et je dirais, une série de témoignages jour le jour qu'on a collectés les jours après, chaque jour, avec les auteurs invités, les uns après les autres. Donc on a des choses qui se collent, qui se côtoient, qui ne sont pas toujours, d'un point de vue éditorial, raccord. Mais ça, j'assume complètement ce non-raccord, puisque finalement, je vous rappelle qu'Evento, pour moi, c'était un peu la première fois. On m'a fait confiance, on m'a appelé pour réfléchir à une première. Certains disent que je suis souvent l'homme de la première fois. Je me suis frotté. Je me suis frotté souvent à ce genre d'aventure, musée d'art moderne à Paris avec le couvent des Cordeliers, entre autres. Jusqu'à aujourd'hui, comme je suis assez naïf pour y aller comme ça, fleur au fusil, à chaque fois ça se passe bien. J'en garde un énorme souvenir. Ça a été très dur après coup, les 3-4 mois post-evento, on m'a dit que c'était normal. Et puis là, je suis très heureux de revenir et puis d'avoir finalement la trace de tout ça qui s'est mis en œuvre dans ces deux petits livres rouges. C'est un peu la subversion qu'on aime bien parfois. Je te passe la parole, merci.
Donc effectivement, alors c'est à la fois un livre, un catalogue, c'est effectivement un objet un peu hybride, mais qui ressemble, je pense, qui te ressemble, et qui ressemble aussi à Evento. Donc à la fois un cahier d'images qui montre le côté événementiel d'Evento, mais aussi peut-être ce qu'on avait un peu oublié dans le feu d'Evento, c'est qu'aussi il y avait une certaine densité et qu'il y avait aussi l'idée d'une plateforme de réflexion. Et donc il y a ce deuxième cahier où il y a des impressions, des réflexions, les intervenants, des écrivains, les architectes. Et donc il y a toute cette matière fictionnelle, philosophique, qui fait que là aussi, je veux dire, Evento, c'est un questionnement sur la ville et aussi sur le geste artistique. Et donc, on va revenir en arrière, 2008. Donc, Monsieur Juppé, maire de Bordeaux, te confie cette carte blanche. Quel est à ce moment-là ton état d'esprit ? Tout commence, tout reste à faire, mais comment, je veux dire, tu abordes cette demande et comment, je veux dire, Evento va prendre corps ? Compliqué. Parce que je crois que c'était important de montrer aussi que Evento a été une réflexion. Il y a eu tout ce temps où tu avais ce projet, il a fallu que tu le nourrisses, il a fallu que tu lui donnes une densification. Hein. Et donc, c'est peut-être important aussi de montrer quel a été le chemin parcouru pour arriver, je veux dire, à ce que tu nous as donné à voir.
Je crois que le premier moment, après la surprise et une espèce de plaisir à être appelé à faire quelque chose de nouveau, une fois tout ça passé, on se rabat vite sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre de « mais waouh, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là ? Comment on peut aborder ce sujet-là ? » Puis on se dit, dans la raison, comme ça, on se dit « ouais, bon, finalement, en 10 ans quasiment, j'ai fait une vingtaine de biennales de l'autre côté ». Et peut-être qu'il y a peut-être des choses à amener sur cette idée-là. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à une biennale ? Parce que la première question était, est-ce qu'on peut faire une nouvelle biennale ? Quel serait le type de biennale qui comporterait des nouveautés ou en tout cas une approche un peu différente, puisque la ville est unique, parce que la demande est aussi celle de confier les rênes à quelqu'un qui, finalement, donc, ce n'est pas le métier. Je ne suis pas commissaire, je ne suis pas directeur d'un lieu culturel ou autre, donc je n'ai absolument aucune expérience par rapport à ça. Sauf que j'ai côtoyé ces milieux-là depuis une dizaine d'années, de l'autre côté, en tant qu'artiste invité. Et en fait, le premier réflexe, c'est de se dire, mais et si on essayait de faire quelque chose qui nous conviendrait à nous, les artistes, les auteurs. Parce que moi, la notion d'artiste m'est un peu vague. Je crois que je suis plutôt du côté des auteurs, qu'ils soient dans le théâtre, dans le cinéma ou dans l'architecture ou l'art. Dans la mode même, dans la création en général, je n'y vois pas de grande différence. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces personnes-là qui souvent sont un peu maltraitées, parce que c'est un peu le cas, il faut le dire, que les biennales, les grandes biennales d'art, en fait, il y a des... Enfin, mon réflexe a été de me dire, très simplement, mettons tout ça à plat et essayons de se dire, produisons quelque chose qui soit égalitaire, équitable, pour tous les artistes, qu'il n'y ait plus de différence entre l'artiste très connu et l'artiste pas du tout connu, celui qui a une réputation en a pas, le has-been, et, enfin, l'historique reconnu et celui qui n'a pas eu vraiment sa chance. Donc ça, c'était mon premier réflexe. Après, il y avait cette idée de se dire... Enfin, cette idée assez simple qui était comment j'interviens dans une ville. Donc essayer d'explorer avec toutes les contradictions de la ville, avec toutes mes maladresses, et puis aussi toutes les attentes et toutes les envies qu'il y avait en face. Donc là, on avance dans des choses un peu... en terrain un peu étrange, pour se retrouver au final dans une situation assez pragmatique qui est de dire, bah voilà, on a un budget, on a une liste de gens, comment on étalonne tout ça. Enfin, c'est des choses que je connaissais pas, mais qui sont pas très loin de, d'un métier que je connais peut-être mieux que celui de l'architecture, où à un moment donné, il faut faire des choix. Bah voilà, on a un budget, on a une série de personnes, on met l'accent peut-être plus sur un hall d'entrée que sur le dernier étage, et puis bah voilà, on hiérarchise. Donc là, on est dans le pragmatisme le plus total. Tout en se disant que il y a le cœur et que quelque part il y avait une carte blanche au départ. Donc ça, c'est quand même très agréable. Alors, on me l'a un petit peu à la fois reproché et rappelé à maintes reprises, mais l'énoncé d'Evento, avant même que ça s'appelle Evento, qui était le nouvel événement culturel de Bordeaux, était de dire on donne une carte blanche à un jeune auteur. Ça, c'était la première étape. Et du coup, je m'en suis un peu servi, c'est-à-dire je me suis fait plaisir aussi, en ayant conscience qu'il fallait, dans la demande initiale, se tenir à quelque chose de très simple. Et là, c'était M. Juppé qui m'avait donné juste cette petite ligne, qui était de dire, essayez de concilier des publics qui, d'habitude, ne se côtoient pas. Et en fait, moi, j'ai construit mon histoire comme ça. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on peut concilier les deux publics de façon très naïve, parce que c'est... quasiment tâche, je pense, encore aujourd'hui, c'est une tâche assez impossible et très dure. On y est arrivé parce qu'il y a une alchimie qui s'est produite. Peut-être que la localisation même de l'événement a beaucoup joué. On l'a analysé, on a passé beaucoup de temps à regarder où on pouvait faire ça. On avait énormément de possibilités, à côté du lac, à côté de la base sous-marine, etc. Et puis après, on a établi les choses. Alors, je ne sais pas si c'est... Il y a un jeu de planification, d'anticipation, d'intuition. Après, il y a des équipes de production, il y a des équipes culturelles de la ville qui m'ont aidé là-dessus. On ne travaille pas seul. Je veux dire, exactement comme M. Pistoletto aujourd'hui me le disait, en tant qu'artiste, on est bien souvent confronté à soi-même, mais quand on est dans ce type de tâche, c'est un ensemble de personnes. On est chef d'orchestre. Donc j'ai essayé d'être le chef d'orchestre de tout ça.
Oui, et à ce moment-là, c'est venu le projet que tu as identifié autour de cette articulation entre l'intime et le collectif. Mmh. Et tu as parlé, je veux dire, finalement, de la construction d'un patrimoine sensible de la ville. Et tu peux revenir sur cette idée qui a été quand même le moteur d'Evento, la construction d'un patrimoine sensible de la ville.
C'est toujours cette notion-là. Moi, je ne suis pas un théoricien, faire très simple. Je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas quelqu'un qui... Mon travail, c'est de faire des projets, artistiques ou autres, mais en tout cas, produire des œuvres, on va dire, architecturales ou artistiques. Et c'est à travers ces œuvres-là, en leur donnant des titres, qu'elles existent. Ce qui est le propre de tout auteur, avec son média. Et le titre, pour moi, est une clé, bien souvent. Donc l'intime collectif, pour moi, c'était parler d'une ville... parler de la rue, parler à un moment donné de l'appropriation d'un territoire commun, qui est celui de l'espace public, et comment on le réinvestit. Mais on le réinvestit en gardant notre identité. Et en fait, il y avait juste cette... Il y a eu un soir où j'ai appelé Jean-Dominique en lui disant « Je crois que j'ai la clé de cette histoire, il faut qu'on parle de l'intime et du collectif, il faut qu'on mélange les deux choses. » C'est le propre de la ville contemporaine, ça a toujours été le propre de la ville. Il suffit de prendre Bénévolo et l'histoire de la ville, on lit les pages, on passe sur l'histoire de la ville, ça a toujours été cette friction à un moment donné où on vit ensemble, vivre ensemble. Oh, waouh. Donc faire un événement culturel, faire un événement, à la fois culturel et populaire, parce que c'est un peu l'idée d'Evento, comment on peut produire ça, si ce n'est que sur cette chose quasiment impalpable qui fait que on se reconnaît dans une ville. Plus qu'une nationalité, plus qu'une identité nationale, souvent, on se reconnaît par rapport à une ville, par rapport à un territoire, et souvent par rapport à un voisinage. Même dans un système aujourd'hui qui est démontré, analysé comme étant global, le localisme, le fait qu'on a grandi dans une ville, dans un quartier, qu'on partage un certain... Alors, je ne parle même pas de valeur, on partage l'épicier, la grisaille ou la beauté de la journée, etc., fait qu'à un moment donné, on est dans une communauté. Et je dirais que la proximité, elle est toujours la même, elle est nécessaire. Je peux être en communication avec Hong Kong ce soir par Internet ou discuter via Skype avec des amis à Tokyo et préparer mon prochain voyage à Tokyo. Il n'empêche que le petit quartier du Sentier dans lequel j'habite à Paris fait que c'est mon identité. Je préfère discuter avec Monsieur Ben Simon quand je vais lui acheter des noix de cajou. Voilà, ça j'existe, c'est moi. Et je crois que pour beaucoup, la ville fonctionne sur ces petites choses. Et donc, comment on met la ville dans tout ça? Comment on produit, à un moment donné, un intérêt collectif vis-à-vis de l'extérieur? Ça se joue sur l'intime de cette ville. Et je me disais... Enfin, moi, l'hypothèse que j'avais mis en place autour de ce titre, c'était, finalement, si on amène des étrangers à venir produire des artistes, à se côtoyer et autres, à rencontrer Bordeaux, il faut qu'à un moment donné, ça se passe par rapport à quelque chose qui est dans le rapprochement direct. Et donc, comment on peut produire ça? Il y avait plusieurs hypothèses. L'une étant, qui est venue un peu après... étant que le vecteur en fait le plus simple hein, par rapport à une ville, c'est souvent le vecteur de j'ai pas le mot en français mais d'entertainment, d'amusement. Et la fête foraine pour moi était unique dans cette forme ici à Bordeaux puisqu'elle occupait le centre. Donc c'est quelque chose que j'ai expliqué, que j'ai peut-être fait cette explication de texte un peu laborieusement les premières fois. Et maintenant, elle est beaucoup plus claire un an après, c'est qu'il y avait une articulation. Cette ville fonctionne sur une centralité un peu étrange qui est un vide. Et donc là, c'est une forme urbaine inédite, enfin, qui existe dans plein d'autres villes, mais elle est assez inédite dans cette capacité à fédérer. C'est-à-dire qu'elle est à la fois vide et plein à certains moments de l'année. Donc elle cadence la vie de cette ville. Avec la fête, je ne sais pas, l'agriculture au vin, la foire au vin, la fête du fleuve, etc., au jambon, voilà, il y a des... et tout ça ponctué. Donc, voilà, la clé, elle était là. Je ne sais pas si je réponds à la question, ouais.
Non, mais alors, sur cette idée de l'intime et du collectif, c'est à la fois s'adresser à l'autre, s'adresser aux autres, s'adresser à tous les autres. C'est vrai que tout ça, c'est un peu ancré... avec ce lien, cette connexion avec la fête foraine. C'est vrai que Evento, sa singularité pour cette première édition, c'est cette connexion avec la fête foraine. Et donc avec, d'une certaine manière, une idée de fête, qui n'est pas toujours quelque chose que l'on rencontre dans l'art contemporain. Bon. Et donc c'est vrai que tu as posé ce postulat comme une possibilité de développer à partir de là tout ce projet. Mais quelle est la place pour toi, je veux dire, effectivement, de cette idée de fête, je veux dire, cette idée de la fête foraine qui a quand même, bon, un peu bousculé.
Parce que, enfin, alors après, c'est pour moi, il y a le côté événement, parce que la demande était claire, il fallait faire un événement, produire un événement. L'art contemporain n'est pas suffisamment puissant dans sa capacité à séduire pour amener un public plus large. Donc il faut que l'art contemporain, à un moment donné, accepte, à un moment donné, de jouer, de s'associer. Et il le fait avec... On voit bien les créateurs contemporains d'art contemporain. Les artistes, aujourd'hui, vont vers le cinéma, vont vers d'autres formes. Et en fait, ils se nourrissent, puisqu'ils sont dans la contemporanéité. On est obligé de se nourrir de quotidien et de ce qui nous environne. En l'occurrence, là, c'était la fête foraine, ce grand vide urbain occupé par la fête foraine. Je me suis dit, là, on va capitaliser, on va échanger, et en fait, on va permettre à un moment donné quelque chose qui, pour moi, a à voir avec cette idée d'intime collectif, c'est qu'on passe dans un autre champ sans s'en rendre compte. Et ce qui était intéressant, d'où l'idée de produire, de demander à un artiste de dessiner une passerelle aussi, c'est qu'il fallait créer un lien de façon à ce que les gens passent d'un lieu à l'autre sans se rendre compte qu'ils passaient une porte. En gros, c'était annuler la notion de passage d'un lieu à un autre par un seuil qu'il faut franchir et pousser une porte. Donc le musée, finalement, vient dans la rue, les œuvres vont dans la rue, ça, c'est pas moi qui l'ai fait la première fois, mais dans cette situation, il s'agissait de trouver ce que j'appelle un piège, un traquenard, produire quelque chose qui fonctionne comme un passage temporel, physique, intellectuel, mais qui ne le soit pas,
qu'il ne soit pas identifié comme tel. Et en fait, l'analyse était très simple, puisqu'on était sur deux types de publics qui se côtoient, plutôt un public, je dirais, excusez-moi du terme, mais plutôt bourgeois, le long des quais et du fleuve, qui s'était approprié avec la transformation urbaine de Bordeaux sur ces dernières années, le tracé du tramway, et un public populaire de l'autre côté au même moment. Donc on savait très bien, moi, en revenant plusieurs fois, on voyait très bien cette antagonisme, cette espèce de distance. Et physiquement, il y avait cette ligne, qui est celle du tramway, qui fait qu'à un moment donné, on renforce un peu les limites. Donc comment on pouvait... Et donc l'idée est venue très vite de se dire... produisons quelque chose qui fasse le lien. Alors, hein, et comme je suis peut-être architecte, etc., je me suis dit, mais et si on faisait une passerelle, on faisait passer les gens par-dessus, et on les amène directement, ça serait très simple. Donc, on réfléchit, qui peut être la personne, on se dit peut-être qu'Awamata est un des artistes contemporains le plus à même à produire ce genre de lien, simplement avec du matériau, avec du sens. On n'a pas besoin d'un ingénieur, on n'est pas en train de faire un ouvrage d'ingénierie. Donc on a été le voir en lui demandant. Sa première réaction a été de refuser. Parce qu'évidemment, l'artiste refuse ce genre de... quand c'est guidé. Et après, on a rediscuté et finalement, il a compris l'idée et il a simplement dit « Ok, mais alors dans ce cas-là, laissez-moi travailler. » Il a commencé à travailler sur l'idée et il est venu avec ce petit geste que pour moi je trouve sublime, qui était juste de se poser, de rebondir vers le fleuve. En fait, il avait tout compris. C'est-à-dire qu'il avait même trouvé l'extension possible à l'histoire. Emmené par ailleurs. Et le leur était là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose qui était de l'ordre, je dirais, de la plateforme d'observation, d'espèce de jetée vers le fleuve, était le point de focal. Et tout le monde pensait, je me rappelle très bien les premières conversations, c'était « on nous emmène vers le fleuve, vers l'autre côté, le geste est là ». En fait, c'était un piège magnifique, c'est une espèce de traquenard magnifique. En fait, c'était juste l'entrée dans la fête foraine. On inversait, on tournait le dos au fleuve et on disait, voilà, deux publics peuvent se rencontrer très simplement, se croiser sans aucun affect, en se disant simplement, on se promène et on passe de l'un à l'autre.
Voilà. Et donc, il y avait cet enjeu, tu l'as dit, de la rencontre, du mélange, du mixage, à la fois de territoire, de registre... et aussi de public. Hein. C'était aussi cet enjeu-là. Et pour toi, Gilles, bon, cette idée d'une autre ville, d'une ville nouvelle, d'une ville qui se construirait autrement, elle ne peut se construire que sur cette idée du mélange, du mixage à la fois de territoire, de discipline, de public.
Je pense, oui. Moi, je suis assez étonné, on est à la veille des élections, enfin en plein dans les élections au Brésil, et j'étais au Brésil au moment où Lula, en 2000, quand Lula a été élu. Et j'étais dans des favelas à Sao Paulo, et on était avec des jeunes profs de philosophie qui allaient dans les bidonvilles pour enseigner la philosophie, ou en tout cas essayer d'amener quelque chose. Et l'élection de Lula a été un mouvement incroyable. Et j'étais assez étonné, parce que je disais, mais finalement, après toutes ces années noires, etc., il y a enfin un espoir chez vous. Et je me rappellerai toujours, il y a un jeune philosophe qui me disait, mais le vrai problème, c'est pas que Lula... Enfin, la réalité, c'est pas que Lula arrive aujourd'hui et fasse quelque chose de nouveau. C'est juste que Lula crée le lien avec ce qu'était le Brésil avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous oublié que le Brésil était un pays avec une classe moyenne où les riches n'avaient pas peur de mettre leurs enfants à la même école de quartier avec les enfants de leurs employés de maison. Et qu'en 20 ans, ce pays est devenu le pays de la peur de l'autre, le pays du fort et pas des faibles. Et Lula nous donne de l'espoir parce qu'il fait croire simplement aux gens qu'il va y avoir un renouveau de ce qui était avant. Et alors, il fait croire, il me disait, il fait croire. Et en fait, il a réussi quand même à redonner un élan à ce pays en disant simplement, on n'est pas obligé de mettre nos enfants dans cette école-là parce qu'on a peur dans notre quartier, l'école à côté de ma maison, je ne peux plus les mettre parce qu'ils vont être en danger. Et pour moi, la ville de demain doit être la ville d'hier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le grand commerçant va chercher son enfant à l'école... Et c'est la même école que son employé ou l'épicier d'à côté qui, lui, est un petit commerçant ou l'ouvrier. C'est pas un problème de... Voilà, alors, je le dis avec mes... Je suis pas le
plus de politique, je ne suis pas un politique, je sais. Mais il y a un vrai problème dans ce pays. C'est-à-dire qu'on est en train de donner, au cours des 20 dernières années, on est en train de, le Brésil l'a montré, ce n'est pas une hypothèse plausible de séparer les gens, de les diviser. Et puis il ne faut pas donner, il ne faut pas oublier que c'est les faibles qui souffrent.
Alors c'est le rôle de l'artiste de créer ce lien.
Bien sûr. Pas qu'à lui. En tout cas, il est là pour le rappeler. Il est là pour le démontrer, il est là pour le... En tout cas, il est là pour en tout cas, le dire si ça le touche, si ça l'énerve. C'est surtout ça, le rôle de l'artiste. C'est d'être capable de dire quand il n'est pas content, et de ne pas se taire.
Et donc, il y avait aussi toute cette problématique à la fois de l'entrecroisement et de l'éclatement dans des ventos. Toi, tu parles de centralité et d'itinérance. Et donc, quelque chose qui fait que, finalement, ce qui était au centre, au cœur des ventos, c'est la notion de circulation, la notion de parcours. Est-ce qu'effectivement, c'est effectivement cette notion de parcours qui fait que les choses peuvent se réactiver.
En fait, il y avait une notion pour moi qui est importante, qui était celle d'éviter les frontières et de passer les limites, aller au-delà. Je reprends juste, en fait, une des clés pour moi de compréhension de Bordeaux était l'histoire du tramway, en fait, qui avait renoué et fait que la population revenait dans le cœur et tout ça se remixait, on réoccupait les quais, ce qui est une tendance dans certaines villes et qui fonctionne, en tout cas à Bordeaux ça fonctionne, ça a vraiment désenclavé certains quartiers, les ramène. Et je me disais, bah voilà, avec les œuvres, on va utiliser cette centralité, puisqu'elle est cette espèce d'attracteur de centralité attractive. Et puis après, on va sprout comme la banlieue en général, c'est-à-dire le sprout, l'espèce d'étalement sur d'autres lieux des œuvres. Après, il y a eu des moments où on s'est dit, en observant, qu'effectivement, il y avait des moments où ça marchait pas si bien que ça. Mais parce que c'est des logistiques, c'est une durée de temps très courte, et que c'est des systèmes qui nécessitent du temps. De toute façon, quand on veut qu'à un moment donné saupoudrer, aller au-delà des limites et autres, il faut un peu de temps. Et le format peut-être d'Evento, étant un format court, ne permet pas cette espèce d'appropriation de l'extraordinaire par d'autres publics. Si je veux être un peu plus clair, c'est des œuvres d'art qui viennent s'installer dans des quartiers à un moment donné ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour être adoptée ou en tout cas comprise ou en tout cas domptée visuellement. Donc ça, c'est peut-être ma conclusion par rapport à ça.
Et sur tu parlais justement sur ces œuvres qui se déplaçaient dans la ville. Tu as parlé de monuments furtifs. Mm-hmm. Et donc là aussi, à la fois on voit ce que c'est qu'un monument furtif, ça devient plus compliqué, mais ça a été quand même une notion que tu as souvent repris. Mm-hmm. Et justement dans cette notion de parcours, et tu peux revenir sur cette idée du monument furtif, qui est quand même quelque chose qui me semble intéressant.
Il y avait cette idée de célébration de la grande fête. Et en fait, le propre, je dirais, historiquement de l'art est de produire des monuments. En fait, l'artiste produit des monuments à l'aude de quelque chose, ou l'architecte ou autre. On est souvent instrumentalisé pour produire du monument. Et quelque part, je dirais que ce que je voulais produire, c'était quelque chose de l'ordre d'une production de monuments de célébration, mais qui passe inaperçu, ou en tout cas qu'on ne puisse pas l'identifier comme tel. J'aimais bien cette idée de pas venir imposer de façon pompeuse au coin de la rue quelque chose qui se montre elle-même comme étant de l'ordre de la célébration du monument. Donc j'y ai accolé cette idée, je demandais aux artistes de réfléchir à la furtivité, à cette idée de discrétion ou de... On parlait d'intime, mais avec certains artistes, je parlais de timidité. Je disais, il faut pas qu'on soit... L'artiste n'a pas à être arrogant par son œuvre. Il faut qu'à un moment donné, l'œuvre s'impose d'elle-même. Je reprends la pièce de Henri Salat, à côté du théâtre, qui était... du Grand Parc, qui a fonctionné du bouche à oreille. Alors, beaucoup de gens m'ont dit après coup, oui, mais il y a grosso modo maximum 800 personnes qui y sont allées par petits morceaux et tout. Mais dans la sensibilité de l'œuvre, je trouve que c'est une des pièces les plus réussies d'Evento quasiment, parce qu'elle a suscité le bouche à oreille comme un murmure. C'est-à-dire que c'est une pièce qui s'est mise à exister, qui n'a pas pu exister ailleurs qu'à Bordeaux, parce que l'artiste a travaillé sur l'histoire du théâtre et de ce que ça voulait dire, tout ça, et de ce quartier. Et en fait, elle a, je pense qu'avec le temps, elle a plus de force que sur l'instant. Et donc, elle avait, pour moi, la furtivité nécessaire pour qu'elle existe par la suite. C'est-à-dire que finalement, quelque chose qui vous a effleuré, qui vous a à peine touché à un moment donné, dans l'oubli, c'est comme je parlais de ça sur les premières présentations, c'est de l'ordre de l'histoire d'amour fulgurante dans une rue, comme ça, où à un moment donné, on ne sait pas si c'est une histoire d'amour, peut-être que... En fait, on est dans l'hypothèse. En fait, c'est produire des hypothèses, entre guillemets, érotiques avec la ville. On produit quelque chose qui est de l'ordre du possible. On ne saura jamais si c'est vraiment, ça va marcher, ou ça a marché, ou ça aurait pu marcher. Mais en tout cas, la poésie, c'est ça. C'est juste un micro possible, un petit moment de brillance dans le quotidien. Et je pense que cette œuvre-là, en particulier, a produit cette situation. Fernando Sanchez Castillo, avec son espèce de monument barricade en bronze qui se promenait comme ça, qui se posait dans des endroits... J'ai observé à plusieurs reprises des gens s'asseoir dessus, s'arrêter, se regarder, se poser des questions. Je pense que ça suffit, ça a suscité. Alors après, oui, la quantification, je veux dire, de la visibilité de l'objet à cet endroit-là. Mais on est dans le subjectif, l'art est subjectif. Mmh. Le beau est subjectif, donc de toute manière, voilà. Donc c'est furtif.
Voilà, du monument furtif, c'est aussi l'idée que, ben voilà, pour que ça fonctionne, il faut que ça produise du récit, il faut que ça produise de la fiction. Et donc ces œuvres qui fonctionnent, c'est des œuvres qui nous racontent quelque chose et dont on se raconte aussi quelque chose. Et donc, à la limite, ce que tu expliques, c'est qu'effectivement, on n'a même plus besoin de les voir. C'est le tout, ce qu'elles produisent, le récit qu'on peut se passer de...
Moi, je suis effaré. Alors, c'est toujours très... très gênant de dire ça, mais je voyage beaucoup. Maintenant, on commence à me demander de venir à des conférences, expliquer pourquoi Evento, ce format Evento a fonctionné. J'ai été au Japon, je vais aller à Nantes, on me demande d'aller dans d'autres villes expliquer un peu l'histoire. Et je suis toujours étonné comment des personnes qui ne l'ont pas vu en ont entendu parler, et ont entendu parler de cet événement en particulier à travers les œuvres qui ont... existait à ce moment-là. Donc ça veut bien dire que le taux de succès, si on doit parler de taux de succès, là, d'un point de vue réussite, le taux de succès ne se mesure pas sur l'instant, mais se mesure sur l'après, c'est-à-dire sur vraiment, et c'est inquantifiable. Moi, quand on me dit à New York, mais Bordeaux, j'ai entendu dire qu'une fête foraine avait un écran et a demandé, et donc c'est cet événement-là, Dominique Gonzalez Foster, etc., les gens de Performa qui avaient lieu juste après Bordeaux, avec une charge mais énorme, c'est-à-dire que c'est vraiment, alors là pour le coup, des méga professionnels qui sont en place, etc., sur un format très établi, ont une espèce de pointe de je dirais même de jalousie, parce que c'est un peu ça, en disant, mais alors comment... Ah oui, c'est tout. Alors explique, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce truc? Et personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Et ça, je trouve ça génial. Mm-hmm. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle d'Evento au travers des œuvres. C'est ces œuvres-là qui font que...
Et on revient sur cette idée du centre et de la périphérie, de ce que produit le centre et de ce que peut diffuser la périphérie. Ouais. Alors, on va rentrer peut-être plus dans le contenu d'Evento. D'abord, comment s'est fait le choix des artistes? Tu avais déjà une idée, tu avais déjà travaillé avec certains d'entre eux. Comment s'est fait le choix des artistes, à la fois par rapport à la ville, par rapport à Bordeaux, mais aussi par rapport à ton projet dans la ville?
Bon, maintenant, je peux le dire. Hein. C'est un choix esthétique. C'est les gens que j'aimais bien, quoi. Les gens qui me fascinaient. Il y avait ceux qui me fascinaient, ceux que j'avais envie de rencontrer, ceux, pour certains, que je connaissais, donc j'aimais le travail. Il y avait peut-être eu aussi des paris, à un moment donné. Et puis, voilà, c'est tout.
Et alors, bon, maintenant, on va rentrer peut-être...
Tu peux poser la question.
Parce qu'il faut aussi faire un bilan... D'après toi, alors qu'est-ce qui a fonctionné dans Evento? Donc effectivement, tu peux revendiquer. Et qu'est-ce qui, d'après toi, n'a pas fonctionné? Quel est aussi le niveau des déceptions qu'il peut y avoir Bon, une manifestation a, voilà, ouais, comme ça ne peut produire que aussi de la déception. Je veux dire, c'est aussi.
Bien sûr.
Mais je veux dire, ce serait peut-être bien aussi que tu reviennes globalement sur Evento et que tu voilà que tu nous dises, je veux dire, quel, d'après toi, ce qui a fonctionné, les points forts et ce qui bon reste en chantier pour Evento 2.
Mm-hmm. Ah, ouf. C'est difficile comme question.
J'ai faussé. Non, peut-être ça, bon.
Non, mais je peux. Non, mais moi, les choses.
C'est aussi important parce
ouais,
que.
Ouais, je peux être assez cash, comme on dit ces jours-ci. Ce qui, de mon point de vue, n'a pas totalement fonctionné, c'est l'itinérance qu'on a mis en place, qui, quelque part, a fonctionné pour certaines œuvres. Je parle de, par exemple, de Fernando Sanchez Castillo, parce que ça fonctionnait dans l'objet même. Il était pensé comme tel. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est pas tant l'itinérance, mais plus certains artistes par rapport à l'itinérance. C'est-à-dire qu'il y avait une contrainte, et je pense que en tant que commissaire, mais ça, c'est peut-être lié moi à ma découverte de cette, on va dire, de ce job, de cette discipline. Il faut aussi, pour certaines demandes, quand on a un certain nombre de... un objectif, de la même façon que quand je fais le choix de Kawamata pour la passerelle, je sais qu'il va pouvoir le faire. Sur d'autres éléments, j'ai peut-être été un peu dur avec certains artistes dans ce que je leur ai demandé. Dans le fait de leur avoir demandé de faire de l'itinérance. Et puis après, il y en a d'autres qui se sont révélés sublimes par rapport à ce défi-là. Je veux dire, rappelez-vous Dealer Escofidio avec Wolf. Ils ont fait un boulot de compréhension de la ville extraordinaire. Ils ont quand même produit quelque chose, alors qu'au départ, c'est quand même un pari totalement risqué de demander à des architectes de travailler sur une itinérance, sur un format de 10 jours. À l'arrivée, c'est quand même un des projets qui a été quasiment un des plus populaires. Je veux dire, c'est puisque lui, il a été fédérateur d'un engouement. Et voilà. Alors, je réponds pas complètement. Non, mais je sais pas.
Non, mais c'est effectivement.
C'est dur de.
Voilà,
de...
sur la question de l'itinérance, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Est-ce que ça devait fonctionner sur C'est vrai.
Moi,
que sur
que
un laps de temps.
C'est plus des histoires. Après, il y a une suite à tout ça. Il y aura un autre format. Je pense que Michelangelo va travailler sur un autre format, une nouvelle façon. Et je pense que c'est le propre d'Evento de déstabiliser aussi. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que l'idée était de produire à chaque, et c'est ce qui est en place avec Evento, à chaque 2 ans, quelque chose qui chamboule la ville. C'est quand même le principe, je veux dire, Brigitte Poussel. Et là, M. Ducassou est juste en face de moi. Les premières réunions, c'est, voilà, M. Faustino, vous avez Didier, tu as une carte blanche. Vas-y, utilise cette ville pour remuer, pour faire des expériences. C'est le principe. Alors, on passe de Didier Faustino à Michelangelo Pistoletto. Voilà, ça va être encore un truc. Je pense qu'on n'est absolument pas, on ne sera absolument pas dans le même registre. Et c'est et je pense que là, on parle souvent du côté événementiel d'Evento. Je crois que ce qui va être la force, les prochaines éditions d'Evento, c'est qu'à chaque fois, le format sera bousculé. Le propre format va se réinventer, de par les personnalités invitées, de par les collaborations, de par aussi, même, je dirais, le milieu culturel bordelais qui, à un moment donné, comprend les mécanismes, s'adapte peut-être de façon plus rapide. Peut-être que la première fois, le milieu était assez déstabilisé par cette forme-là, mais l'originalité même du format, c'est de dire tous les 2 ans, on chamboule tout et on recommence quasiment à zéro. Alors on regarde ce qui s'est passé avant, on va voir des traces, voilà, etc. Là, on peut voir quelques traces, il y a des bouts de film, il y a des choses comme ça. Il y a un très beau reportage sur Kawamata qui est passé sur Arte il n'y a pas très longtemps, où on sent Evento, on sent l'effervescence. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il y a une effervescence, il y a eu un côté magique, il y a eu des concerts. Voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de concert la prochaine fois, peut-être qu'il y aura plus d'art de la scène, on n'en sait rien. C'est une autre personne, c'est un autre auteur qui s'approprie la ville, qui s'approprie Bordeaux, Et c'est ça l'originalité du... C'est pas moi qui ai fait le format type. Après, on a beaucoup débriefé post-evento, courant de l'année dernière, avant que le choix se porte sur... collégialement se porte sur M. Pistoletto, mais une des grandes conclusions était de dire est-ce qu'on garde ce format-là, la fête foraine, le pont, et je pense que les Bordelais vont s'ennuyer si la prochaine fois il y a un nouveau pont qui va être une nouvelle passerelle qui va être demandée à un autre artiste, et puis une scène au tel endroit, on s'ennuie si à chaque fois c'est la même chose. Donc il y a voilà. C'est, moi, ce que j'aime bien, c'est justement ça. C'est-à-dire, et je pense que finalement, le propre d'Evento, c'est qu'on ne pourra jamais dire « Ah, en venant à Bordeaux pour Evento, alors on va aller devant Place des Quinconces pour voir la passerelle, puis ah, bah, cette année, le pont, la passerelle des Quinconces, elle n'est pas hyper réussie, elle était mieux l'édition d'avant. » Non, c'est voilà.
Alors c'est vrai qu'effectivement, le fait de donner carte blanche à un artiste et donc d'avoir à chaque fois autour d'une personnalité, c'est vrai que la manifestation va évoluer. Je suppose quand même que quand tu as rencontré Pistoletto, il y a des choses que tu as envie de transmettre. Parce que tu auras quand même marqué.
Non, mais c'est l'humain. En fait, ouais. Il y a deux, trois petites choses. Je ne peux pas tout dire, mais il y a deux, trois petites choses. Oui, l'humain, c'est vrai que je continue à me projeter sur l'avenir en me disant je ne peux pas si je ne garde pas quelque chose. Donc je pense qu'il faut bien que je transmette quelque chose. Je ne peux pas répondre.
D'accord. Écoute, dernière question. Qu'est-ce qu'Evento a changé dans ton parcours d'artiste ? En tant qu'artiste, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Beaucoup de choses. Vraiment beaucoup. Peut-être de gérer... En fait, de gérer, pas le stress, parce que je suis toujours aussi stressé, de gérer mieux, je dirais, la complexité. D'être plus à même de comprendre la complexité. En fait, peut-être qu'avant Evento, j'avais une vision peut-être un peu naïve de la complexité, comme quoi, voilà, on pouvait... Et là, en fait, on se dit, il y a quand même des fois où, dans des situations complexes, il faut y aller, il faut prendre son temps. Peut-être que je suis un latin très doux, donc... et puisque ça, en fait, ça a vraiment changé, c'est voilà. Non, mais ça m'a appris peut-être d'un côté, ça m'a appris la patience, et ça n'a renforcé qu'une chose en moi, c'est d'être encore plus impatient qu'avant. Mais ça, ouais, il faut être impatient. L'impatience.